J'aimerais lire avec vous dans Nombre, donc c'est l'Ancien Testament, Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Un peu plus loin, au verset 17 jusqu'à 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand, en grand nombre. Ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. » Puis, pareil, toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, verset 27. Donc, ils sont partis, puis ils reviennent, ils vont faire un rapport à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ah, la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Les enfants d'Anak, ce sont des géants. « Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hittiens, les Jubiciens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Donc, je vais revenir sur ce passage. Moïse, serviteur de Dieu, cette génération qui avait été esclave du pays des Égyptiens. L'Égypte était un puissant pays qui exerçait une servitude. Ce n'était pas n'importe quel pays qui pouvait s'en prendre aux Égyptiens. Ils avaient une réputation. Des chars, des chevaux. Ils étaient équipés et très bons dans le combat, les tactiques de la guerre. Ils étaient esclaves. Et on connaît l'histoire. Dieu va envoyer Moïse, son serviteur, pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ils vont voir les miracles et les prodiges, la gloire de Dieu. Dieu va les amener, il va séparer la mer, ils vont aller dans le désert. Le désert, c'est bien. Il y a différents types de déserts. Dans ce passage, c'est un désert physique, géographique. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi des déserts spirituels. Ouh, le calme est là. Mais les déserts sont pour un temps, où Dieu parle à nos cœurs. Mais Dieu a un plan, a un projet. Et alors que Dieu a libéré ce peuple, le peuple d'Israël, les Hébreux, il va les appeler à travers la bouche de son serviteur Moïse. Allez, il y a une terre promise pour vous. J'envoie des serviteurs. Le but de Dieu, le fait d'envoyer ses serviteurs, ce n'était pas qu'ils soient découragés à travers ce qu'ils voyaient, mais qu'ils soient encouragés par rapport au beau pays. Ils reconnaissent que le pays est beau. Le lait et le miel coulent. C'est un terme utilisé pour dire le pays est bon, il est magnifique. Et au lieu de regarder à ce que Dieu voulait qu'ils voient, regardez le pays que j'ai promis à votre ancêtre. Un beau pays. Eux, ils ont regardé à des détails qui, pour Dieu, n'est pas un problème. Ils vont dire, ah, les villes sont puissantes, elles sont fortifiées, il y a des géants. Ils vont décourager le peuple. Cette idée-là n'était pas le plan de Dieu. Deux personnes avaient compris le plan de Dieu et vu à la manière du Seigneur, c'est Joseph et Caleb, ceux qui vont encourager le peuple. Mais si, allons-y, Dieu est avec nous. Et le peuple va être découragé, ils vont refuser. Malheureusement, on le sait, il y a des promesses avec Dieu qu'il faut parfois accepter de passer par le combat pour les saisir. Et eux, ils ne voulaient pas. ils avaient peur. Ils avaient oublié le Dieu qui les avait délivrés de la main des Égyptiens. Qu'est-ce que l'homme devant l'Éternel? Qu'est-ce qu'une armée? Qu'est-ce que sont des géants? Dieu avait fait des fléaux en Égypte. Il avait envoyé les insectes. Il avait transformé la mer en sang. Le fleuve en sang. Et la mer, il l'a séparé. Ils étaient découragés. Ils se sont rebellés. Ils n'ont pas voulu écouter. Et cette génération qui a vu la gloire et la puissance de Dieu, par leur désobéissance, vont louper la promesse. Ils vont pas rentrer dans le plan que Dieu avait pour eux. Le plan, c'était de rentrer dans ce pays. Leur rébellion va les amener à quoi? À rester dans le désert, à errer pendant 40 ans. Une génération dans la Bible, c'est 40 ans. 40 ans à errer dans le désert. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Le plan de Dieu, c'était qu'ils vivent des choses merveilleuses et qu'ils saisissent la promesse. Mais la désobéissance les a amenés à rester dans ce désert et à tourner en rond. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut se dire pendant 40 ans dans le désert quand il n'y a rien à faire? Eh bien, je pense qu'il y a le souvenir. Ah là là, autrefois, Dieu, mes enfants, écoutez, autrefois, Dieu, ben, il nous a délivrés de la main des Égyptiens. Pardon. Et il a fait des miracles, des prodiges. Et aujourd'hui, ben, tout ça, c'est le calme plat. Le seul miracle qu'il y avait, mis à part la manne, les cailles et les vêtements, eh ben, c'était la présence, la nuée de Dieu qui descendait sur le tabernacle. Et en dehors de ça, c'était plutôt calme. Pendant 40 ans. Ils ont loupé la bénédiction. Deux seules personnes de cette génération qui vont entrer dans la bénédiction, c'est Josué et Caleb. Alors, le temps passe, 40 ans plus tard. Voici une nouvelle génération. On va aller dans Josué chapitre 1, verset 2. Verset 1 et 2. Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple qui est pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Voici la nouvelle génération. Dieu a toujours un plan pour son peuple. C'est de rentrer dans sa promesse. Il va dire à Josué, serviteur de Moïse, dis à cette génération de rentrer, de visiter le pays que je leur ai promis. Une génération qui, eux, avaient entendu parler de la part de leur père les miracles et les prodiges qu'ils avaient vécu avec l'Éternel. Mais cette génération-là n'avait pas connu les miracles et les prodiges. Ils ont entendu ce que leur père, leur mère avaient témoigné de leur expérience. Et alors que eux, ils n'ont pas vu les miracles, ils vont obéir. Ils vont accepter de se mettre en marche. Cette génération qui, par la foi que les parents ont transmis, vont accepter. Je pense qu'ils en ont marre d'être dans le désert, à tourner en rond. L'Éternel nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Allez, on va s'en emparer. Allez, tous ensemble. Ils se sont motivés et décide d'obéir à la parole du chef Josué pour entrer dans la promesse de Dieu. Pour entrer dans cette promesse, dans cette quête, il va falloir faire des combats. Il va falloir accepter d'affronter des ennemis puissants. Mais ils font confiance en Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 10, lorsque Josué a reçu cette parole de la part de Dieu de dire au peuple, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Puis un peu plus loin, verset 16, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Cette génération-là accepte la parole de Dieu, le plan de Dieu et décide de passer le Jourdain. Ils vont avoir à faire face à des ennemis, des peuples puissants. On s'imagine, on est dans le désert, on vit sous des tentes, on a quelques instruments métalliques pointus pour faire des armes. On va passer le Jourdain, on va se battre contre des forteresses, des royaumes équipés, habitués à l'art de la guerre avec des technologies plus avancées. Je pense à des catapultes ou à des épées mieux façonnées, des lances, des tactiques de guerre. Eux, par la foi, on sort du désert, on s'assemble, on prend quelques armes et on y va. Le défi, il est grand. D'un point de vue humain, c'est complètement fou. Mais ils acceptent. Et Dieu sera avec eux. Ils ont osé la foi en obéissant à sa parole, au travers de son serviteur Josué. Lorsqu'ils vont arriver au Jourdain, la parole nous dit que le Jourdain était en crue. C'est un fleuve, il dépasse des berges. Dieu va dire à son serviteur Josué, envoie les porteurs de l'arche de l'Alliance, envoie-les en premier. Dès qu'ils mettront le pied dans l'eau, le fleuve va se séparer. Ils vont obéir, ils vont le faire. Ils vont mettre les pieds dans l'eau. Le fleuve se coupe. Il faut réaliser que de l'autre côté du fleuve, il y a des royaumes, il y a des rois, il y a des forteresses, il y a des villes. Et quand il y a un peuple de plus de 300 millions de personnes avec leurs bœufs, leurs brebis, leurs enfants, ces troupeaux, ça se remarque, ça se voit. Quand quelqu'un traverse un fleuve, on se dit, ah, il y a une nation qui débarque, qu'est-ce qu'ils veulent avec nous? Il y a sûrement quelque chose à enquêter sur l'affaire. Et ils observent, ils voient ceux qui portent l'arche de Dieu, le fleuve qui se sépare. Et le fleuve s'est séparé sur une grande largeur pour que tout un peuple puisse traverser. Et la parole nous dit qu'ils sont passés les pieds à sec. Quand tout le peuple est passé, les porteurs partent en dernier, le fleuve coule à nouveau. Voici, par la foi, en osant, eux qui n'avaient pas expérimenté avec Dieu les miracles et les prodiges de leur Père, ils vont oser obéir et par cette obéissance, ils vont voir Dieu qui les accompagne et faire le miracle au moment où ils ont besoin du miracle. Puis, ils vont être confrontés au royaume de la forteresse Jéricho. Un pays fortifié dont leur fierté, leur confiance sont des remparts, des hauts remparts. Et alors qu'ils sont là, qu'ils font le tour, Dieu va donner un commandement. Allez, faites le tour. Ils obéissent par la foi. Ils ne savent pas ce qui va se passer. D'un point de vue humain, on pourrait se mettre là à la place de Josué. Ah Seigneur, on n'a pas le matériel pour faire tomber ça. Là. Comment on va s'y prendre? D'un point de vue tactique, c'est compliqué. Ils vont faire confiance à Dieu. Et Dieu va être encore au rendez-vous. Ils vont expérimenter le Seigneur. Certains vont me dire, Jimmy, c'est comme ça que je m'appelle. Ils vont me dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas été forcé? Et il y a des chercheurs, des archéologues qui ont retrouvé la ville de Jéricho. Et ils expliquent une chose, c'est que si la ville avait été forcée, les murailles elles avaient été forcées par les hommes, l'ennemi extérieur, dont Josué et ses hommes, les gravats seraient tombés vers l'intérieur de la ville. Si je pousse de l'extérieur, les gravats tombent vers l'intérieur. Sauf que ce qui est spectaculaire, c'est que les gravats sont poussés vers l'extérieur de la ville, comme si on avait fait une onde de choc vers l'extérieur. Bien sûr, même encore aujourd'hui, avec notre technologie, on n'est pas capable de faire ça. C'est Dieu qui a renversé la muraille. C'est Dieu qui a agi. Dieu avait donné un ordre d'aller dans le pays. Et Dieu a accompagné, et ils vivent encore la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Puis, dans leur quête, ils vont tomber face à une forteresse, le pays de Haï. Et là, à un moment donné, Dieu va parler à Josué, dans cette bataille, où il y a peut-être plus de 80 personnes, même, je sais pas, je dirais 50 000 habitants. Bon, on imagine, c'est peut-être pas ça. Dans toute cette bataille, Dieu va lui dire, tu prends le javelot que tu as en main, tu tires dans cette direction. Il obéit, il tire, ça tombe pile poil sur le roi d'Aïr, qui était caché. Parmi tous les gens, c'est tombé sur lui. Ils ont remporté la victoire. Ok. Ils expérimentent. Dieu les appelle à sortir du désert. Ils voient la main de Dieu agir. Puis Dieu, il fait comme il veut. Face à une autre armée, un autre combat, Dieu va rassembler tous les frelons du pays. Et ceux qui ont un doute, je donne le passage. Josué, chapitre 24, verset 12. C'est un passage où Dieu va rassembler tous les pays. Il va rassembler tous les frelons du pays. Et il va les envoyer attaquer l'armée qui est en face. Bon, pour qu'un frelon t'attaque, déjà il faut le chercher en principe. Là, ils attaquent l'armée ennemie. Mais s'ils attaquent tout le monde, pourquoi ils n'attaquent pas le peuple d'Israël, le peuple de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a envoyé les frelons. Dieu s'est servi des frelons pour remporter des victoires. Ce peuple qui n'avait pas de compétences de guerre, ce peuple qui vivait dans un désert, par la foi, ont obéi et ont vu Dieu agir. Beaucoup des peuples étrangers, quand ils ont vu le peuple hébreu d'Israël sortir, bien que leur croyance, bien qu'ils croyaient en des dieux autres, ils savaient une chose, que le Dieu des Hébreux existait, qu'il était vivant, qu'on l'appelle l'Éternel, Elohim, Yahvé. Ils savaient que Dieu était avec eux. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils l'ont vu. Lorsque Josué va envoyer ses deux espions dans la ville qui était en face du Jourdain, en face d'eux, qui ont vu la traversée, ils vont venir, ces espions, une prostituée arabe va les cacher. Elle va leur dire, l'Éternel, votre Dieu, vous donne ce pays. La crainte est dans notre ville, car on sait ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens et on a vu ce qui s'est passé. À travers leur foi, à travers leur expérience qu'ils ont vécue avec Dieu, ceux qui sont autour bénéficient de leur expérience. Ils voient aussi la gloire de Dieu se manifester. Et puis il y a les rois amoréens et cananéens. Ces rois-là, eux aussi, ils ont vu la traversée. C'est plusieurs rois, on parle de plusieurs rois, de chefs. Ils ont vu la traversée et ils ont compris qu'ils étaient découragés. Ils n'ont pas voulu combattre avec les Hébreux parce qu'ils ont vu le peuple traverser. Ils ont vu leur Dieu séparer le fleuve. Nous, on invoque des dieux, mais ils ne répondent pas toujours. Eux, ils invoquent leur Dieu, on le voit agir. Et il agit puissamment. Des rois étaient découragés. Alors, j'aimerais dire un point. Ce n'est pas toujours facile de rentrer dans les promesses de Dieu. Lorsque Dieu a un plan pour ta vie, des fois c'est tout tracé. Des fois, Dieu nous appelle à faire la démarche. Une démarche de foi, une démarche d'obéissance, une démarche à faire face aux obstacles qui se dressent devant nous. Dans les projets, il y a ceux qui en parlent. Et ils en parlent, ça s'arrête là. Il y a ceux qui en parlent et qui mettent tout en œuvre pour accomplir leur projet. J'aimerais te dire, si tu es dans cette personne qui a un projet avec Dieu, ou Dieu a un projet avec toi, mets en œuvre. Car Dieu travaille avec ceux qui se mettent en marche. On va le voir. Avec Jésus. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 38, donc Jésus, il enseigne partout la parole. Il parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, on va se dire souvent, les ouvriers pour la moisson, c'est les pasteurs, les hommes de Dieu. C'est vrai, je suis d'accord. Mais je vais aller plus loin. Toute personne qui devient enfant de Dieu, qui connaît sa parole, qui est appelé à être son disciple, est censé exercer, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Il est participant à cette moisson. Ce n'est pas réservé à ceux qu'on appelle au ministère. Ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes. L'évangéliste a reçu une onction particulière de la part de Dieu. Mais comme tout chrétien, il y va avec la force que Dieu lui a donnée. Il peut avoir aussi des peurs, des craintes, mais il y va. Tout chrétien est appelé à aller dans la moisson. Jésus, dans Matthieu 10, pas besoin de, je vais le dire. Dans Matthieu 10, Jésus va envoyer ses disciples. Il va leur donner le pouvoir, donc l'autorité, de chasser les esprits, de guérir toute maladie et infirmité, et de ressusciter les morts. Il va leur donner cet ordre, allez, annoncez, prêchez la bonne nouvelle. Et puis, pareil, dans Matthieu 10, Jésus va rappeler à ses disciples, vous avez tout pouvoir, mais soyez pas naïfs. Bon, soyons pas naïfs. Nous savons dans le monde que nous vivons. Tout le monde n'est pas bienveillant. Soyons pas naïfs, mais restons vigilants et prudents. Comme les disciples, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Certains ont suivi Jésus, d'autres l'ont haï, l'ont maltraité. Nous, chrétiens, lorsque nous annoncerons la bonne nouvelle, on le sait. Vous le savez. Pour le nom de Jésus, nous vivrons des belles expériences, mais nous vivrons aussi des rejets. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Mais les rejets ne doivent pas nous arrêter, ne doivent pas amener la peur dans le chrétien. Le chrétien est un combattant. On sait pourquoi on combat, on sait pourquoi on annonce la bonne nouvelle. Parce qu'on a reçu le message de Dieu. On sait qu'après notre passage sur terre, il y a la vie éternelle. Et c'est ça qui doit nous motiver. C'est ça qui doit nous motiver à continuer. C'est l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes. Les disciples de Jésus, comme le peuple de la nouvelle génération au temps de Josué, ils avaient peur. C'était nouveau. Ils n'avaient pas vécu d'expérience. On avait vu le maître agir. Maintenant, le maître dit, allez, c'est à votre tour. Ils n'avaient jamais guéri. Ils n'avaient jamais fait de délivrance. Ils ont obéi. Ils sont allés. Ils ont appliqué ce que le maître a dit. Le Seigneur va faire pareil. Il va envoyer les 70. Je vous donne autorité. Allez prêcher la bonne nouvelle. Vous chasserez les esprits. Vous guérirez les malades. Vous ressusciterez les morts. Mais prêchez la bonne nouvelle. La parole, elle nous dit quoi? Quand ils vont revenir, ils vont se réjouir. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils sont contents. Ça veut dire quoi? Qu'à travers la parole de Jésus, ils ont mis en pratique, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester, ils ont vécu les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, parce qu'ils ont osé mettre en pratique. S'ils n'étaient pas mis en pratique, s'ils n'avaient pas osé, ils n'auraient rien vécu de tout ça. Si le peuple, sous la tutelle, le commandement de Josué, n'avait pas osé aller dans le territoire que Dieu avait promis, ils n'auraient pas vécu toutes ces expériences. Il y a des expériences qu'on vit quand on ose. Jésus, dans la parole, on voit qu'il a ses disciples, il les enseigne, mais à un moment donné, il leur dit, allez. Jésus aime mettre ses disciples en action. Parce que lorsque les disciples sont en action, en mouvement, qu'ils ne sont pas là à errer, à rien faire, il peut travailler avec eux. Le Seigneur travaille avec ceux qui se mettent en mouvement. Alors, un peu plus loin, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, on a parlé des Hébreux qui étaient dans le désert, que Dieu avait donné un ordre, ils n'ont pas obéi, ils ont erré. Puis la nouvelle génération, elle obéit à l'ordre, elle voit la gloire de Dieu. Et même ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont étrangers au peuple de Dieu, vont voir la gloire de Dieu. Et certains vont s'ajouter, comme Rahab, la prostituée. Elle va accepter le Dieu des Hébreux. Et d'autres personnes vont croire au Dieu des Hébreux. La prostituée, Rahab, va faire du Dieu des Hébreux son Dieu. Elle sera même dans comment on dit déjà? Comment on dit les origines? Ah, c'est ça, je cherchais le mot. Dans l'arbre généalogique de Jésus, elle va apparaître comme l'une de ses arrière-arrière-grand-mères. Dieu l'a acceptée parmi les siens. Et alors, Jésus, qui aime bien envoyer ses disciples, la parole va nous dire dans Acte 2. Pardon. Non, pourquoi j'ai dit Acte 2? Excusez-moi, c'est pas Acte 2. Ça sera Marc 16, versets 14 à 20. Jésus va mourir à la croix pour sa mission. Les disciples qui avaient vécu des expériences avec Jésus, des miracles et des prodiges, lorsque Jésus va mourir et qu'il va ressusciter, il va aller voir ses disciples pour leur annoncer une bonne nouvelle. Il va leur dire. Voilà. Il va ressusciter, il va aller les voir, il va donner ce verset très connu de Marc 16, 14, 26. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ah. Premier point dans ce passage, le Seigneur apparaît aux onze. Il leur fait un reproche. Vous avez abandonné l'œuvre. Pourquoi vous êtes arrêtés? Mon plan, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et ils erraient. Ils étaient là, dans une phase d'errance. L'un est parti là-bas. Pierre est parti à la pêche. Les disciples se rassemblent. Jésus apparaît. Il leur dit, il leur fait des reproches. Pourquoi vous n'avez pas cru? Je vous avais annoncé ces choses. J'allais ressusciter. Je vous ai donné un message. Pourquoi vous êtes arrêtés? Ça, c'est le premier reproche de Jésus. Jésus voulait que ses disciples continuent l'œuvre, celle d'annoncer l'évangile. Car Jésus, le Seigneur, avait un plan de continuer à faire des miracles et des prodiges au milieu d'eux. Alors le Seigneur va au point 2, il va les encourager à reprendre cette mission. Allez, reprenez courage, prenez cette mission, reprenez la mission. Et en apparaissant au milieu d'eux, il va leur confirmer une chose. Je suis pas mort, je suis ressuscité. Soyez actifs. Puis point 3, verset 20, qu'on a lu tout à l'heure. Les disciples, à partir de là, on va voir qu'ils vont obéir, allant partout, et le Seigneur travaillait avec eux. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'on n'est pas en mouvement, lorsqu'on erre, qu'on est dans un désert où on ne bouge pas, le Seigneur ne travaille pas. Il va dire à ses disciples, allez, les disciples vont reprendre courage, les disciples vont retourner faire ce combat, celui du royaume de Dieu. Ils vont annoncer la parole, et le Seigneur va travailler avec eux. Ils ont peur, bien sûr, les Romains, tous ceux qui adhèrent au Christ, sont menacés. Ils ont peur, mais ils vont oser par la foi. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Puis, dans un autre passage, Acte 2, versets 1 à 4, pas besoin de le mettre, je vais le dire. C'est ce passage où les disciples ils sont cachés dans la chambre haute. Parce que Jésus leur avait dit, attendez, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Alors, ils sont dans la chambre haute. Ils sont 120. Donc, il y a les 11 disciples, mais aussi d'autres chrétiens. Donc, cet appel d'annoncer l'évangile n'est pas que pour ceux qui ont un ministère. Nous sommes tous appelés. Ils sont dans la chambre haute. Ils sont un peu cachés. comme ceux qui sont dans le désert. On est caché, on est tranquille, personne ne nous voit, on ne nous embête pas. Ils sont dans la chambre haute, cachés. Ils attendent la promesse. Le Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu. Ils avaient peur. Les Romains les cherchaient. La mort était là, la crucifixion. Personnellement, moi, je n'ai pas envie de me faire crucifier. Hein. Ça, la douleur, j'imagine même pas. Ils avaient peur. Et ils ont pris courage. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Puis à partir de la chambre haute, boum, c'est l'explosion. Pierre et les autres disciples vont commencer à sortir. Pierre va prêcher l'évangile. 3000 convertis. Waouh! Les autres vont aussi annoncer l'évangile. Ils vont vivre des expériences, des délivrances, autorité sur les esprits. Ils vont guérir des malades. Pierre, il marche au nombre, ça guérit les malades. Les miracles et les prodiges sont au rendez-vous. Ils combattent pour le royaume de Dieu. Ils annoncent l'évangile. Qu'est-ce qui les motive? Franchement, quand tu sais qu'on va te faire du mal, qu'on en veut à ta vie, qu'est-ce qui te motive d'aller annoncer l'évangile? Ce qui les motive, c'est le zèle et l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Ils étaient motivés pour le Seigneur. Le deuxième point, ils ont appris à mettre en pratique l'amour de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je veux être sauvé, eh bien, je veux que mon prochain soit sauvé. Ils me rejettent, c'est pas grave. On l'a dit tout à l'heure, ils ont rejeté le maître. Lui, il accepte, ah, on en a gagné un. Ils étaient motivés. Et ils visaient, comme on l'a dit aujourd'hui, notre frère qui a apporté la louange, pour viser plus haut. Le matériel, on l'emportera pas au paradis. Mais il y a des trésors qu'on peut amasser dans le ciel. Pour viser plus haut. Le confort, ah, c'est un piège redoutable. Lorsqu'on est dans le confort, on n'est pas pressé. Ceux qui sont dans la misère, ils sont plus actifs que nous, ils voient l'urgence. Mais lorsqu'on est dans le confort, bon, on ne fait pas trop attention à ce qui se passe autour de nous, on est bien. Mais le jour qu'on n'est pas bien, là, le nom du Seigneur, on sait l'invoquer. On sait l'invoquer. Le confort, ça nous rend moins actifs. Ça peut rendre l'homme parfois paresseux. On voit moins la détresse, moins l'urgence. Mais Dieu, il peut arriver que Dieu sorte le chrétien du confort pour pouvoir travailler avec lui. On peut le voir lorsque Jésus va appeler les disciples. Jésus va voir Pierre et il va lui dire « Viens et suis-moi ». Pierre, il a une entreprise, il est pêcheur, il a des bateaux, il a une maison. Il va tout laisser pour suivre le Seigneur. Alors, je ne dis pas d'abandonner les maisons, mais comprenez l'idée. Il va accepter de suivre le Seigneur, il va lâcher son confort. Pierre va suivre le Seigneur et il va vivre des expériences avec Dieu. Dieu, le Seigneur, va pouvoir travailler avec lui. Pierre va être parmi les disciples dont le Seigneur va lui dire « Allez, prêche la bonne nouvelle, imposez les mains ». Pierre va vivre ses expériences. Si Pierre n'avait pas suivi Jésus, il n'aurait pas pu vivre ses expériences. Le Seigneur n'aurait rien fait avec lui. Et puis, on voit le passage du jeune homme riche. Un garçon agréable au Seigneur, qui respecte la loi, qui fait tout son possible. Le Seigneur, la parole nous dit qu'il était agréable au Seigneur. Le Seigneur va lui lancer cette même invitation. Viens et suis-moi. Qu'est-ce qui a bloqué le jeune homme riche d'avoir le Seigneur dans sa vie et de vivre des expériences avec Dieu? Ça se trouve, le Seigneur, il aurait voulu l'amener à vivre des expériences profondes, mais sans confort. La Bible nous dit qu'il avait des grands biens. Il n'a pas pu suivre. Pierre et les disciples, eux, ils ont accepté de quitter leur maison pour dormir dans des tentes, à même le sol. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Pourquoi je parle de sortir du désert? Pourquoi je parle de combattre? On parle souvent du réveil. Qui c'est qui veut le réveil ici? Amen. Amen. Moi aussi je veux le réveil. Mais le réveil, ça a un prix. Le réveil, ça a un prix. Ce prix-là, c'est que le Seigneur veut travailler avec vous. Parfois, j'entends nos aînés dans les églises où j'étais, qui me parlaient du réveil. Des gens convertis en masse, des guérisons, des délivrances. Waouh ! Moi, je veux vivre ça. J'ai expérimenté des choses avec le Seigneur. Certaines guérisons, certaines délivrances. Mais la portion est petite. Eux, quand ils me parlent du réveil, les aînés, ils ont vécu des choses merveilleuses et grandes avec Dieu. Et moi, et ceux de mon âge, on veut le vivre. Je me sens parfois un peu comme Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon ? Gédéon avait entendu l'histoire de ses pères. Juge chapitre 6, pour ceux que ça intéresse. Gédéon, c'est quelqu'un qui travaillait, qui connaissait l'histoire de ses pères, la sortie d'Égypte et tout ça. Et il était là. Il travaillait dans le secret. Les temps étaient difficiles. Des fois, on peut avoir des excuses devant le Seigneur. Seigneur, c'est pas facile. Et des fois, c'est pas des excuses. C'est vrai. Seigneur, les conditions sont pas faciles. Là, je peux pas. Gédéon, il vit à une période où les Madianites venaient et pillaient tout. Ils étaient durs avec le peuple de Dieu. Au point qu'ils devaient se cacher pour faire la farine, parce qu'ils étaient boulangers. Pour faire la farine, ils devaient se cacher. Pour faire la farine, il fallait monter sur la colline la plus haute. Et quand on écrase le blé, il y a une petite peau dessus. C'est le vent qui souffle, qui emporte tout ça, qui sépare la balle du grain. Il pouvait pas le faire, parce que s'il montait sur la colline, l'ennemi le voyait, allez hop, on va chercher tout ce qu'il a fait. Donc il est obligé d'être caché. Et l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, dans Juges, chapitre 6, versets 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il l'appelle vaillant héros. Pourquoi ? Parce que l'Éternel voit sa motivation dans le secret. Il est toujours actif. Même s'il y a l'ennemi, je continue à travailler. Puis verset suivant. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Mais l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et dans cet échange de paroles entre Gédéon et l'Éternel, Gédéon va expliquer la situation. Et il va dire, il est frustré. Il connaît les miracles et les prodiges que ses ancêtres ont vécu. Où sont les miracles et les prodiges que nos pères racontent ? Ces merveilles. Et le Seigneur va faire abstraction. Il n'a pas besoin de parler avec ça. Il va lui dire juste une chose. Ne cherche pas à comprendre. Va avec la force que tu as. Et tu délivreras mon pays, moi qui t'envoie. Puis Gédéon va commencer à trouver des excuses. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre parmi ma tribu. Je suis le dernier de ma famille. Et le métier qu'il exerce est boulanger en cachette. Mais Dieu regarde pas tout ça. Il dit, je suis avec toi. On peut revenir à la génération au temps de Josué. Seigneur, on ne sait pas se battre. Il y a des royaumes plus forts que nous. Nous, on vit dans des tentes, dans le désert. Dieu il dit, t'occupe pas de ça. Va, je me charge du reste. Alors, c'est là que Gédéon va commencer à vivre des expériences personnelles avec Dieu. Parce qu'il va obéir au Seigneur. Si Gédéon n'avait pas obéi au Seigneur, il n'aurait pas vécu tout ce qu'il aurait vécu. Le Seigneur va lui dire, allez, prends des hommes avec toi pour combattre une armée. Une armée de 35 000 hommes. Ça fait du monde. Et lui, il a une petite poignée. Alors qu'il est là, on s'imagine, il est là. Ah ouais, on est ça, là-bas, ils sont nombreux. Seigneur, comment on va gagner? Comment on va se battre? C'est quoi le plan? Le Seigneur, il va lui dire, le plan? Vous êtes trop nombreux. Allez, tu m'en gardes 300. 300. On est 300? Ah ouais, on est moins qu'avant. Et le peuple, il est nombreux. Seigneur, comment on va faire ? Le Seigneur ne lui a pas dit comment il allait faire. Il a juste donné des ordres. Il a obéi. Et lorsqu'ils vont obéir, se mettre en position, l'Éternel va envoyer un esprit de confusion au milieu de cette armée ennemie. Ils vont s'entretuer. Il va donner la victoire à Gédéon. Tout ça pour dire que L'Éternel a donné un ordre. Ils ont obéi. Ils ne savent pas comment ça va se passer, mais au moment où ça doit s'accomplir, Dieu agit. Les miracles et les prodiges. Il a vécu les expériences que ses pères ont vécues. Alors moi, tout à l'heure, je parlais de nous, notre génération. On veut vivre le réveil. Pour vivre le réveil, le Seigneur donne un ordre. Allez, annoncez l'évangile à toute la création. Je suis avec vous. Je vous ai donné autorité. Ceux qui étaient la première génération dans le désert n'ont pas obéi à l'Éternel. Ils ont loupé le coche. Ils étaient, ils sont là. Seigneur a un plan. Il a un plan pour son Église. Allez, je vous envoie. Annoncez la bonne nouvelle. Vous allez voir des prodiges, des miracles, des guérisons. Il va nous surprendre. Il va surprendre ceux à qui on va prêcher. Moi, je me souviens. Bon, je suis jeune par rapport à plusieurs d'entre vous. J'avais à cœur d'évangéliser. J'aime évangéliser et j'ai à cœur de voir les miracles et les guérisons. Et un jour, j'étais dans une ville en Aquitaine, à la région Aquitaine. Je connaissais bien la ville. J'avais décidé d'aller évangéliser. J'ai dit, Seigneur, allez, je vais prendre ta parole, je vais obéir. T'es avec moi. Je rassemble tout mon courage. J'ai peur, mais j'y vais. Et le Seigneur m'a fait un clin d'œil. Je roule dans la ville. Et cette ville que je connais bien, je me perds. Je roule, je prends les petites ruelles, je me perds. Je m'arrête à un stop, je me dis, mais c'est fou ça. Je connais cette ville par cœur et je trouve le moyen de me perdre. Qu'est-ce qui m'arrive? Juste en face de moi, il y a une plaque avec marqué la ruelle, rue du prêcheur. Ah ouais Seigneur, tu m'encourages. Alors, ça m'a boosté. Je suis sorti. Je dis, Seigneur, tu prépares toute personne. Tu conduis les choses. Bien que j'avais peur, j'y suis allé avec la foi. Seigneur, c'est toi qui envoies les personnes. Je sors de la voiture, je vais en direction du parc. Souvent, les gens dans les parcs, ils ont le temps de discuter. Je vais en direction du parc, et là, il y a un garçon qui vient tout droit vers moi. Et du coup, je l'interpelle, parce qu'il vient tellement vers moi, que je dis, il va m'entrer dedans. Je l'interpelle, je lui parle, voilà, bonjour, je m'appelle Jimmy, je prends du temps pour les gens, je prie pour les gens, parce que Jésus, il guérit, je crois en Dieu. Et si les gens qui ont des questions, ben, je leur explique. Il me dit, ok, on discute et tout ça. Il accepte, il aime bien la parole. Il dit, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Ben écoute, moi j'ai dit, Seigneur, envoie-moi une personne et toi, tu es venu droit sur moi. C'est pas moi qui suis venu, c'est toi. Il me fait, ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui suis venu vers toi. Et le Seigneur m'avait envoyé. Ça m'a encouragé. Seigneur fait des miracles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, ça va être des guérisons, des fois, ça va être des délivrances, des fois, c'est des résurrections. Et puis, des fois, il y a des miracles qui sont simples. Je continue, je passe à d'autres personnes et je vais à un banc. Il y a une fille qui est assise là. Je dis bonjour, je suis chrétien, je prends du temps pour les gens, je prie pour si les gens veulent être guéris, car mon Dieu peut guérir. Et je prends du temps pour répondre à des questions. Elle me dit, oh, je suis chrétienne, d'accord. Je dis, ah, tu vas dans quelle église? Je ne vais plus à l'église. Et cette personne-là, ben, elle n'était plus en phase avec Dieu. Parce que elle avait fait des choix dans sa vie qui n'étaient pas conformes. Elle culpabilisait beaucoup. Et je lui dis, tu sais, certes, ça c'est le péché, mais si tu demandes pardon de tout ton cœur au Seigneur, il est fidèle et bon pour te reprendre. Le Seigneur t'aime et il attend qu'une chose, c'est que tu reviennes dans sa maison. La personne pleure. Elle accepte qu'on prie ensemble. Elle dit, waouh, merci Seigneur. Puis je continue. Et à un moment donné, je vois deux garçons sur un banc. Je vais les voir. Même discours. C'est ma phrase d'accroche. Les gens, ils n'aiment pas se sentir forcés ou agressés. Le fait que j'ai cette approche-là, c'est eux qui me disent oui, qui me disent non. Du coup, je leur pose la question. Ok, les deux sont musulmans. Et il y en a un, il dit qu'il commence à lire le Coran. Je parle avec eux et tout, ils acceptent. Et je me sers du Coran pour faire des points d'accroche, pour parler avec Jésus. Et moi, je parle de Jésus. Et à la fin, je leur demande, est-ce qu'on peut prendre les mains pour prier? Je prie pour eux. Et il y en a un qui me demande une Bible à la fin. Je suis parti. Un garçon qui me revient des deux, il fait, quand t'as prié, on te l'a pas dit, mais au moment où tu as prié, on a senti des frissons dans tout le corps. Je dis, ah, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Moi aussi, je veux une Bible. Tout ça pour dire que je suis allé avec la foi. Je savais pas si Dieu allait faire quelque chose, mais Dieu était au rendez-vous. Et ça m'a encouragé. De même que ceux qui étaient dans le désert à l'époque de Gédéon, ils avaient entendu les expériences, mais ils voulaient les vivre. Ils ont osé avec la foi. Dieu leur a donné des victoires. Ils ont remporté plein de victoires. Jésus, qui avait ses disciples, il leur a enseigné la parole. Il leur a donné un message. Allez, annoncez la bonne nouvelle et vous verrez ce qui accompagnera. Il faut sortir du désert, se mettre en marche. On peut avoir peur, mais prenons courage. Dieu est avec nous. Caleb le disait, si Dieu est avec nous, nous serons victorieux. Amen. Paul dit dans son verset, Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » La parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Alors, je vais terminer. J'arrive à la fin de mon message. Nous qui sommes comme les disciples de Jésus, qui avons reçu son message, qui nous l'avons aimé, il nous a aimés, on sait ce que Dieu attend de nous. Le confort sur terre, c'est passager. On doit viser haut. On doit viser comme les disciples et prendre courage pour annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur, il a un plan. Il nous appelle à annoncer l'évangile. Il veut travailler avec nous. Il veut nous surprendre. Alors, frères et sœurs, reprenons cette marche avec le Seigneur d'annoncer l'évangile, car le réveil est encore possible aujourd'hui. Mettons-nous en action. Amen. Bon, je vais prier. Éternel Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que ta parole nous parle encore aujourd'hui. Tu as un plan avec nous, avec cette génération. Ta parole nous enseigne toutes ces générations qui ont expérimenté ta gloire, ta puissance, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous aussi, Seigneur, nous aspirons à rentrer dans ton plan, à t'obéir. Seigneur, nous croyons dans le réveil. Nous croyons que tu peux faire de grandes choses. Tu es ce même Dieu puissant. Alors, Seigneur, que ton esprit nous encourage, que tu nous encourages à aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, même si on est persécuté, même si on se moque de nous, c'est pas grave. Car il y a aussi des personnes qui ça va réjouir le cœur d'entendre un espoir. Le Dieu vivant et vrai, qui est mort et ressuscité, qui a donné sa vie pour sauver l'humanité et qui nous appelle à une plus belle espérance dans le ciel. Nous voulons être partageurs de cette bonne nouvelle du royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place pour... La Sensen, c'est ça?